un expresso s'il vous plaît? C'est ton podcast familial pour t'accompagner à travers le quotidien dans ton rôle parental. Je m'appelle Annie Normandin, je suis intervenante familiale et j'ai une super de belle collaboration avec Cathy Dubé de Cigogne et Baluchon. C'est un moment juste pour toi, relax, prends-toi une tasse puis viens faire le plein. C'est parti! Bonsoir tout le monde, bonjour, bon matin. Pour ceux qui nous écoutent tôt le matin, il y a des parents qui m'écoutent à 5h le matin. Ça me fascine à toutes les fois que je vois les lectures sur mes statistiques de Anchor. Aujourd'hui, bien ce soir, on est mercredi soir, il est 8h. J'ai un super invité qui s'appelle Bruno Best. Bonjour Bruno.
Bonjour à tous.
J'espère que tu vas bien.
Oui, c'était une belle journée. Un peu fatigué, mais ça va.
Écoute, Bruno, je voulais te recevoir parce que tu es un papa. Hein? Mm-hmm. Il n'y a pas beaucoup de papas qui viennent sur mon podcast. On n'a pas l'occasion souvent de discuter avec des papas, d'avoir la façon de penser, d'avoir la façon, la vision des choses, hein, sur la parentalité des parents, des papas. Et toi, tu as fondé un groupe pour les papas qui sont séparés. J'aimerais ça que tu me parles un petit peu du commencement, de où ça a parti, puis ton expérience, parce que tu es aussi un intervenant psychosocial.
Effectivement. Ce serait facile de dire je l'ai parti parce que j'ai vécu une séparation, mais ce n'est pas uniquement à cause de ça que j'ai eu l'idée. Même quand j'étais en couple, c'est quelque chose qui m'intéressait parce que j'ai un bagage, ça fait à peu près 20 ans que je suis dans le domaine de la relationnelle et de l'intervention. J'ai travaillé presque 15 ans pour les centres jeunesse, donc la DPJ. Puis bien souvent, au début, je trouvais ça un peu dommage, mais j'ai comme développé une expertise parce qu'on m'associait souvent à des pères. Parce qu'on disait que les hommes étaient plus difficiles d'approche. On le sait que les hommes ont moins tendance à vouloir parler, à s'ouvrir. Fait que ça devenait plus facilitant de parler entre hommes, comme on dit. Puis ça me permettait de faire des liens, de savoir les comportements qu'ils adoptaient, qui venaient comprendre la sécurité des enfants puis le développement, avec leur propre vécu. Puis bien souvent, c'était en lien avec une séparation qu'ils n'avaient jamais osé parler à qui que ce soit. Fait que je me suis dit, y a-t-il un lien à faire entre comment est-ce qu'un homme vit la séparation et l'investissement, l'implication qu'il veut faire éventuellement dans la vie de ses enfants? Mais je me suis dit, un jour, j'aimerais ça pouvoir venir en aide, mais vu que je ne pouvais pas juste m'attarder à ça, il fallait que j'aide, dans plusieurs autres domaines. Mais c'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis le début, là.
Ouais. OK. Puis là, tu as eu la magnifique idée de partir un groupe Facebook pour les papas qui sont séparés.
J'ai eu cette idée-là, mais au début, tu l'as dit tantôt, mon nom, Bruno's Best. Ce que je commençais à faire initialement, je n'avais pas l'intention, je n'avais pas la prétention de vouloir aider les gens. Okay. Mais je me disais, si je pouvais commencer par juste poster une image dite positive du père. Moi, je suis quelqu'un qui adore cuisiner. Je cuisine beaucoup avec mes enfants. Qu'est-ce que je faisais? Je mettais en valeur des plats que j'avais faits avec mes enfants pour mes enfants. Donc, si quelqu'un va sur ma page Facebook, Bruno's Best, ça dit je suis un papounet. Je n'ai pas la prétention d'être un chef cuisinier. C'est juste quelqu'un qui adore cuisiner pour et avec mes enfants. Fait que, tranquillement, les gens me disaient c'est intéressant. Puis je voyais que ça faisait écho. Je me suis dit ce serait peut-être le temps que c'est le rêve que j'avais depuis longtemps, que je commence à vouloir le réaliser tranquillement. Puis je me suis dit, j'aimerais ça partir un groupe pour permettre justement à ces pères-là de juste pouvoir parler, échanger entre nous. Il y a beaucoup de groupes sur la paternité, mais cet aspect-là, puis comme je te disais tantôt, comment se définir un homme après la séparation, mm-hmm. à ma connaissance, qu'il n'y en avait pas qui se faisait. Puis ça a créé un engouement, puis... J'ai commencé par faire des entrevues, un peu comme qu'on fait ici, à rencontrer des gens pour me rendre compte que la situation est difficile, mais est encore plus difficile en Europe puis en France. Okay. J'ai beaucoup de membres de mon groupe, je dirais un bon 50-60%, ce sont des Français.
Ah oui?
Ouais, qui me parlent de leur situation, qui me livrent des témoignages, des choses qui ont été heurtantes, qui ont été blessantes pour eux. C'est un peu pour ça que j'ai parti le groupe, pouvoir échanger entre ces papas-là, que j'aime bien dire. Ouais.
Qu'est-ce qui fait en sorte, Bruno, selon toi, que les papas ne vont pas chercher cette aide-là, même s'ils sont super souffrants?
Ben, j'aime bien dire qu'un homme va se définir selon plusieurs rôles, soit des rôles qui s'attribuent ou des rôles que la société va lui assigner. Mais il y a plusieurs hommes, ce que j'ai constaté, c'est qu'ils vont se définir comme un père de famille. Ce qui fait en sorte qu'une fois qu'ils éclatent ou une fois qu'ils vivent une séparation, ils n'arrivent plus à se définir comme un père de famille. Donc, pour eux, ce rôle de paternité-là, ils ont de la misère comment dire, à se projeter sans la mère, sans cette relation-là, parce que pour eux, le rôle familial n'existe pas. Comme je dis souvent au père, est-ce que vous avez été un papa ou vous étiez un père? Parce qu'un papa, c'est quelqu'un que depuis la naissance a pris les bonnes habitudes de pouvoir prendre soin de son enfant. Mais si tu étais uniquement un père, fait que c'est-à-dire que tu te fais juste référer au titre qu'on t'avait donné. Fait que c'est difficile pour le père de devenir un papa. Je fais la distinction entre les deux parce que des fois, ça devient facilitant pour les pères de comprendre. Moi, je dis, je suis un papa. Je veux dire, on devient automatiquement père ou mère lorsqu'on a des enfants, mais le papa, c'est comme on va souvent dire une maman. C'est rare qu'on va dire une mère, on va dire une maman, mais on appelle rarement papa, on dit souvent père. Moi, je suis un papa avant d'être père parce que j'ai reconnu l'importance de pouvoir jouer ce rôle-là. Tu sais, je ne parle pas juste de changer des couches, mais d'être présent, d'investir, de m'impliquer dans la relation avec mes enfants. Ce qui fait en sorte que quand j'ai vécu la séparation, la seule chose qui a changé, c'était la maison. Mais le rôle que je jouais, pour eux, c'était pareil. Les routines étaient pareilles, l'application, donc tout était pareil. C'est juste, ben là, on va juste le faire dans deux différentes maisons. Ouais.
Ah, wow, c'est intéressant ce que tu apportes parce que les papas, présentement, ils veulent s'impliquer plus auprès de leurs enfants. En tout cas, moi, je le vois énormément, mais souvent, c'est vrai que c'est la maman qui rapporte toujours le papa dans l'implication finalement, hein, tu
Ouais.
sais. Je le vois en consultation, c'est la maman qui investigue pour trouver les services, c'est la maman qui prend les rendez-vous, c'est la maman qui demande au papa de venir s'impliquer dans les rencontres avec moi. Mais de plus en plus, j'ai des papas qui viennent me rencontrer pour me dire, écoute, il y a telle chose qui ne fonctionne pas au niveau de ma famille, est-ce que toi, tu pourrais m'aider? C'est rare, mais j'ai des papas qui ont envie de s'impliquer là présentement. Fait que ça fait beaucoup de
Ben,
sens
il y a
ce que tu
beaucoup de
apportes.
pères, de papas qui veulent être reconnus dans ce rôle-là, t'sais, qui veulent en fait juste être respectés, aussi simple que ça, qui veulent mettre en avant-plan toute l'implication qu'ils ont faite, le travail qu'ils font, qui reste souvent un peu en background, comme j'ai dans l'anonymat. Ben, je veux dire, les pères s'investissent, ou du moins j'espère autant que les mamans, mais sauf que on vit dans une société où est-ce que c'est souvent le travail de la mère qui est rapporté. Et que le père reste un peu en silence. Donc, moi, c'est ce que j'encourage, c'est au père et au papa de s'impliquer. Parce que dans mon groupe, oui, j'ai des pères séparés, mais j'ai aussi des pères qui sont en couple qui disent, mais j'aimerais ça avoir des outils. Pas parce qu'ils appréhendent une séparation, mais en même temps, qu'est-ce que je fais maintenant? Parce qu'eux, ils réalisent un peu comme tu viens de dire, bien, je suis là, mais je suis un peu en arrière-plan, là. Tu sais, je reçois des consignes et des directives. Mais qu'est-ce que je dois faire? Parce que j'ai vu des pères que ben, la maman n'est pas là, qu'est-ce que je fais? Fait que pour moi, c'est un peu difficile à concevoir qu'on a besoin de quelqu'un d'autre pour nous donner des règles ou des tâches de comment bien faire certaines choses. Fait que c'est un peu ça mon intention de. Je ne veux pas dire éduquer, parce que je ne veux pas ça, mais juste sensibiliser les hommes sur l'importance de s'impliquer dans la vie de leurs enfants. À un très jeune âge, ouais.
Puis c'est drôle parce que j'ai l'impression qu'avec les années, la femme a tellement la place puis le rôle justement d'être une maman puis d'avoir le lead de la famille que on déresponsabilise les papas à prendre le rôle, on leur laisse pas toujours la place. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi?
Ben, t'as tellement raison, mais il y a aussi des pères et des papas qui sont juste confortables dans ce rôle-là. Tu sais, qu'eux, leur rôle, ben, de pourvoyeur, d'amener l'argent, puis un moment donné de faire la discipline, pour eux, c'est juste parfait. Tu sais, ils n'ont comme pas grand-chose à faire à part d'être présents, mais il faut s'investir. Puis effectivement, tu sais, il y a une dichotomie entre le rôle qu'on veut bien accorder à la femme et le rôle qu'elle va s'approprier aussi, là. Tu sais, je ne fais jamais un discours contre les femmes, bien au contraire, je vise la coparentalité, mais j'entends souvent des femmes qui disent, ben, c'est moi la mère, c'est mon enfant. Je lui ai dit, ben, c'est votre enfant. Oui, mais c'est moi qui l'ai porté. Je sais bien, parce qu'on ne peut pas porter un enfant, mais c'est votre enfant.
Ah
Fait qu'il y a
oui.
encore ce discours-là des mamans qui vont avoir l'impression que l'enfant leur appartient uniquement, ce qui fait en sorte que le père ne veut pas trop s'investir. Et pour l'avoir vécu, pour avoir accompagné, il y a toujours cette menace aussi de, avec tout le système, selon moi, qui n'est pas équitable pour les hommes et les femmes. Après une séparation, bien souvent, c'est la femme qui va avoir la garde de l'enfant et les hommes doivent se battre pour se faire reconnaître et avoir une garde partagée. Fait que, tu sais, il y a tout ça qui plane, les hommes qui disent, ben, regarde, je ne vais pas chercher le trouble, je vais juste faire ce qu'on me dit, puis on verra pour le reste, là. Je trouve ça dommage de laisser planer un peu cette menace-là qui empêche certains hommes de pouvoir s'impliquer davantage, là, dans les relations, dans la relation, là.
Oui, puis tu vois, c'est, je veux pas généraliser, puis je veux pas non plus discréditer les femmes, mais en général, il y a souvent des conflits hein, qui viennent avec la séparation, puis les papas ont peur justement d'alimenter ces conflits-là. Puis j'ai fait un podcast avec une de mes amies qui est avocate, avec Maître Marie Allard, puis on a parlé beaucoup d'aliénation parentale. Est-ce que toi, tu vois ça dans ton groupe avec les papas qui sont séparés?
C'est un sujet qui revient souvent. Moi-même, ben, dans mon podcast, j'avais interviewé un chercheur, docteur aussi à ce niveau-là. Puis c'est quelque chose qui effraie énormément les parents. T'sais, de passer du conflit de loyauté à l'aliénation parentale, t'sais, des fois, la ligne est très, très mince. Mais de voir le sentiment d'impuissance que vivent ces pères-là avec un discours aliénant de la part de la mère, et puis l'enfant pris souvent dans ce conflit de loyauté-là va vouloir se rallier à la mère. Et c'est presque inévitable parce que du fait que le père systématiquement n'a pas cette garde-là, il n'a pas l'occasion de pouvoir se faire entendre, de pouvoir parler puis t'sais, se faire justice lui-même. Fait que oui, c'est très dommage, mais c'est quelque chose qui est vécu. Comme je disais tantôt, il y a un écart considérable entre ce qu'on vit dans notre société ici au Québec, au Canada, versus en France. En France, c'est encore un fléau. Puis il y a beaucoup plus de mouvements, de militants, de revendications par rapport à ça. Puis en même temps, ce n'est pas quelque chose qu'on peut démontrer. Il y a eu beaucoup d'avancées maintenant, ou est-ce que c'est. Je pense même que, je ne veux pas dire des bêtises, mais ça commence à être reconnu au niveau des tribunaux qu'il y a des enfants qui sont victimes d'aliénation parentale, de part et d'autre, là, parce qu'il y a aussi des pères aliénants, ce n'est pas juste des mamans. Là,
Oui,
je ne veux pas
ben oui, ben
juste
oui.
mettre ça sur les mamans, parce qu'évidemment, évidemment, ça a un impact sur le développement psychologique de l'enfant qui n'a pas la capacité de pouvoir parler. Fait qu'un enfant qui est aliéné depuis son jeune âge, pour lui, ça devient un automatisme de croire que l'autre parent, donc il fait du clivage, que l'autre parent, c'est le parent mauvais. Fait que oui, il y a. Puis des pères qui n'ont pas, comme je répète, qui n'ont pas l'occasion, qui n'ont pas de garde partagée, qui voient l'enfant une fois par semaine ou des fois même une fois à chaque fin de semaine, ne pourra jamais investir concrètement l'enfant. Fait que c'est une roue qui tourne là, bien malheureusement, ouais.
Oui, tu sais, tu parlais tantôt de ton podcast qui s'appelle Hors pair.
Ouais.
J'ai eu la chance de t'écouter, d'écouter quelques épisodes, puis je trouve ça vraiment génial, la discussion que tu peux avoir avec les pères, avec les hommes. Qu'est-ce que tu as envie d'apporter, avec ton podcast aux parents?
J'aime pas ça avoir des objectifs parce que j'essaie de faire ça le plus fluide puis le plus simple possible, mais je me dis, si je peux être une voix, si je peux être une genre de courroie de transmission pour permettre à juste. Tu sais, des fois, c'est juste pour permettre à un homme de parler avant tout, de discuter avec quelqu'un qui va avoir cette écoute-là. Je profite de l'expérience que j'ai comme intervenant psychosocial. On dit que notre plus grande force, c'est la capacité d'écoute avant tout. Donc, c'est vraiment juste ça pour. Puis justement, à travers ça, ben, mon groupe, bien souvent, mon groupe, c'est eux-mêmes entre eux qui vont échanger. Moi, je n'interviens pas tant que ça.
Ah oui.
Ouais, c'est eux-mêmes qui vont poser des questions et d'autres vont y répondre, puis vont se soutenir. Je vais publier des choses, des articles, des mots d'encouragement, mais je n'ai pas l'impression de faire de l'intervention. C'est une place pour discuter, pour déposer des frustrations. Puis quand je dis frustration, je veux dire, c'est pas des bêtises, là. C'est pas des injures. C'est ici, on peut parler librement. Fait que l'objectif de mon podcast, c'est un peu ça. C'est qu'éventuellement, ça puisse servir à quelqu'un. Puis je te dirais, tu vois, il y a un monsieur que j'avais interviewé, que lui avait un groupe, puis on s'est parlé dernièrement, puis il me disait qu'il y a eu gain de cause, façon de parler, dans le sens que finalement, sa situation s'est résolue, puis ça va super bien maintenant. Il a réussi à avoir la garde de ses enfants. Mais quand on s'est parlé, puis presque ben, 4-5 mois après, il n'est pas au même état, mais il m'a dit, juste le fait que je puisse en parler avec quelqu'un qui l'a vécu, qui me donne des conseils, ou fait juste m'écouter, ça peut faire toute la différence parce que souvent, on est tellement pris dans l'émotion, puis on n'a pas toute la même capacité de résilience, hein, on ne va pas interagir de la même façon dans une séparation. Moi, je me suis séparé. Est-ce que c'était difficile? Oui, mais je me suis servi de mon expérience pour pouvoir aider les autres. Il y en a qui vont s'effondrer après une séparation. Donc, ce qui fait en sorte qu'ils vont embarquer dans la dépression, mais l'impact que ça a, c'est que ça néglige l'interaction, la relation qu'ils vont avoir avec leur propre enfant. Puis on ne peut pas les blâmer, ces hommes-là, parce qu'ils veulent prendre soin d'eux, ils n'ont pas les outils. Oui, je suis intervenant, donc j'ai peut-être plus d'outils qu'un papa ou un père dit régulier que je peux utiliser. Mais pour ces hommes qui n'ont pas ces outils-là, ben c'est très facile pour eux de s'effondrer. C'est ça le but de mon podcast. En fait, c'est ça le but de toute intervention que je fais auprès des pères, que ce soit le groupe. Puis, je veux créer une communauté. Parce que ce que je dis, puis mon slogan, c'est hors pair. Je fais un jeu de mots parce que je dis toujours qu'il y a un hors pair à l'intérieur de chaque pair. D'ailleurs, mon slogan, c'est comme un peu Superman. C'est un papa qui décèche son chandail, puis il voit le hors pair qui réside en lui. Parce que les hommes s'oublient après une séparation. Fait qu'ils disent non, t'es encore quelqu'un. Donc, c'est les apprendre à s'estimer, à se valoriser. Parce que l'image qu'un homme va avoir de lui, c'est le même regard que l'enfant va avoir sur lui. Puis, si un père ne sait pas s'apprécier, ne sait pas se valoriser, ça va être difficile pour l'enfant de pouvoir avoir une perspective positive de son père. Fait que c'est tout ça que je veux amener. C'est beaucoup d'ambition, mais ça peut être simple à la fois, là.
Ben, moi, je trouve ça magnifique, Bruno, parce que les papas ont besoin d'avoir des gens comme toi pour s'appuyer parce que, puis écoute, moi, je suis une femme, je vais chercher plein de femmes. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mamans qui me suivent. J'ai mon podcast qui a 98% d'écoute de femmes. Mais les papas, je trouve c'est difficile d'aller les chercher quand tu es une femme intervenante puis que tu veux discuter avec les papas. Souvent, c'est la maman qui va nous les ramener. Mais je veux tellement pas les oublier, puis je veux tellement qu'il y ait des ressources parce que c'est pas évident. Puis souvent, je trouve qu'ils sont oubliés, puis j'ai l'impression que les papas abandonnent, mais ils ont des
Effectivement.
droits. Ils ont des droits, ces papas-là. C'est leurs enfants aussi. Fait que moi, je veux tellement pas promouvoir, puis je veux pas aller dans une guerre contre les mamans, aucunement, là. C'est pas ça que je suis en train de nommer. Mais les pères ont autant de droits que les femmes sur leurs enfants. Puis la relation, au bout, il faut penser à la relation. Est-ce que tu veux que ton enfant ait une relation avec son papa? Oui.
Bien souvent, ce que j'ai constaté, c'est ce caractère vindicatif de pouvoir se venger. On oublie l'intérêt de l'enfant. Je veux dire, tout dépend comment s'est passée la séparation. Les séparations qui vont super bien, d'autres sont beaucoup plus difficiles. Mais de part et d'autre, on va oublier l'intérêt de l'enfant. Donc, on va prendre l'enfant en otage parce qu'on veut blesser l'autre, mais on utilise l'enfant comme arme ou comme instrument vraiment, là. Puis tu as tellement raison, je veux dire, c'est l'enfant qui écope, mais l'enfant n'a souvent pas les paroles pour pouvoir s'exprimer. Il veut pas blesser, fait qu'il est déchiré entre les deux. Puis tu as raison, c'est souvent les papas qui vont renoncer, qui vont abdiquer parce qu'ils veulent pas se battre, parce que ça coûte extrêmement cher dans les tribunaux. Les honoraires d'avocats, ça monte assez vite. Fait qu'un père qui dit, puis qui entend les autres parler, il dit, écoute, ça m'a coûté près de 15, 20 000, 30 $. Il dit, ouais, est-ce que vraiment je vais me battre? Puis il n'y a pas de garantie qu'il va avoir gain de cause à la fin. Fait qu'il y en a qui vont juste dire, ben, regarde, je vais payer la pension, puis je vais accepter ce qu'on me donne comme condition. Mais moi, il y a toujours une chose qui m'a toujours un peu, je dirais, créé un certain déséquilibre, c'est lorsqu'on parle de droit de visite à un père. Ça, je trouve ça un peu. Ouais, je trouve ça triste de. On s'entend des fois, il peut y avoir des conditions qui vont permettre ça, mais de façon générale, de dire, ben, tu as des droits de visite sur ton propre enfant. Puis c'est très rare qu'on va entendre ça à l'égard de la mère, des droits de visite. quand on parle d'accès, j'ai comme l'impression, c'est comme si on allait dans une banque, on a accès à un enfant. Comme tu le dis tantôt, je ne pense pas qu'on devrait limiter l'accès à un enfant. Ça devrait être équitable de part et d'autre, tant que les deux parents ont la capacité de pouvoir prendre soin de l'enfant. Mais malheureusement, ce n'est pas ça comme réalité. Puis c'est pour ça que mon groupe existe. C'est pour ça que les autres groupes existent, pour pouvoir donner cette voix-là au papa. Puis les inciter à ne pas. Puis c'est souvent le message que je relance. Il ne faut juste pas lâcher. Il y a quelque chose qui va arriver au bout. Puis l'enfant va voir que vous êtes battu, non pas contre la mère, mais vous êtes battu pour lui. Ce n'est pas une guerre, là. Le but, c'est d'avoir une victoire, mais vous allez gagner quand vous allez pouvoir être réuni avec votre enfant, aussi simple que ça. C'est ça qui nourrit un peu d'espoir les papas que j'accompagne dans le groupe. Ouais.
Oui, puis tu sais, justement, on va, Marie-Alaure et moi, là, qui est une qui va être habituée sur mon podcast, on va parler de médiation familiale là, quand il y a un moment où est-ce que les personnes se séparent. Il y a des rencontres qui sont prévues en médiation familiale pour pouvoir les aider, pour pouvoir se positionner pour la garde des enfants, c'est de façon amicale. Fait que ça, tu sais, je veux que les parents soient au courant que ça qui existe pour les aider. Mais je trouve que c'est inégal quelque part qu'un parent ne soit pas en mesure d'avoir complètement la garde de son enfant comme il le souhaiterait parce qu'il y a séparation. Puis c'est ce que je discute aussi avec des gens, puis j'ai cette réflexion-là. On fait un enfant par amour, hein? Puis on aime notre conjoint, on aime notre conjointe. Puis du moment où est-ce qu'on se sépare, l'autre devient un vampire, devient un monstre, devient désolé le mot, mais une merde. Puis ça, je ne comprends pas, peu importe la douleur que tu as vécue pendant ta séparation, puis qu'il y ait eu des tromperies ou whatever, je ne peux pas croire que pour ton enfant, tu ne peux pas te garder une petite gêne. Puis que tu ne peux pas avoir un peu le contrôle sur toi-même pour pouvoir gérer cette situation pour le bien de ton enfant.
Ben, effectivement, puis je pense dans des situations de crise, moi je l'appelle ça comme ça, c'est qu'on perd nos repères, puis on a de la misère à bien situer par rapport à nos besoins. Je veux dire, c'est quoi la priorité? Est-ce que c'est une réponse immédiate à nos besoins, satisfaire notre colère, ou sinon on est capable de penser à l'intérêt de l'enfant? Puis bien malheureusement, dans bien des situations, ben non, on veut répondre à nos besoins, puis l'enfant est en second plan, puis il souffre, puis on n'en est pas conscient parce que, tu sais, on est convaincu qu'on prend la bonne décision pour l'enfant, mais c'est le contraire, on le fait juste pour nous. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que juste le fait qu'on puisse en discuter comme ça, il y a également beaucoup de femmes qui partagent cette position-là. Je veux dire, il y a des femmes qui se sont joints à mon groupe. Même si c'est un groupe pour les pères séparés, j'ai quelques femmes, je pense deux, trois, on n'est pas énormément, mais. Puis là, je demande, mais pourquoi vous voulez participer à ça? Ils disent, ben, deux, j'ai une grand-mère, que elle, à cause de ça, à cause de toute cette guerre-là, elle n'a pas pu voir son enfant. Parce que c'est la grand-mère du côté paternel. Elle dit, je trouve ça dommage parce que moi, j'ai été, on le dit en bon québécois, j'ai été pogné là-dedans, puis je ne méritais pas ça. J'ai une autre dame aussi qui a rejoint le groupe. Puis je dis, mais pourquoi? Elle dit, ben, moi, j'ai mon conjoint qui se bat. Je veux trouver des outils pour pouvoir l'accompagner. Parce que s'il souffre, ben, c'est moi aussi qui souffre. Puis je l'aime, puis je veux prendre soin de lui. Fait que la meilleure façon, c'est d'aller chercher des outils. Fait que c'est pour ça que je voulais le joindre dans ton groupe. Parce qu'elle voyait un peu c'est quoi qui défilait. Elle dit, ben, c'est intéressant de voir les partages, les témoignages, puis tout ça. Fait que oui, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça, mais je suis content de voir que ce n'est pas juste les hommes. Il y a des femmes qui y croient aussi à l'égalité puis à la coparentalité. Fait que plus on est à se prononcer là-dessus, ben, plus qu'on va avoir cette voix-là pour pouvoir accompagner les papas. Ouais.
Malheureusement, je comprends pourquoi les hommes peuvent craindre un petit peu la femme lorsqu'il est question de séparation, parce qu'on dirait que les femmes prennent tellement une grande intensité dans leurs émotions. Hein, justement, tu parlais de gestion de crise. On dirait que les femmes, on a de la difficulté à se remettre en perspective puis à voir le bout, hein, finalement, d'une séparation. Mais ça fait du mal, ça laisse des traces, c'est très, très malheureux. Puis souvent, ben, toutes ces discussions-là sont devant les enfants. Les enfants écopent, puis là, après ça, ben, c'est difficile à récupérer. Ça cause beaucoup de blessures.
Ben, tu as tellement raison, ça laisse tellement de traumatismes à ces enfants-là. Puis on se demande pourquoi ben, ils sont un peu, mais qu'ils écopent de ça. Puis s'ils l'expriment pas à la maison, mais ils vont l'extérioriser ailleurs, ils vont avoir des comportements violents. En fait, ils vont juste reproduire ce qu'ils ont entendu de part et d'autre, hein. Fait que c'est ça, quand les gens n'ont pas conscience de l'impact, des répercussions que les conflits parentaux, qu'on parlait d'aliénation parentale, là, va avoir au niveau du développement de l'enfant. Fait, je veux dire, si on prenait chacun conscience, puis encore une fois, je ne veux pas juste mettre l'entière responsabilité sur les femmes, parce qu'il y a des hommes qui vont alimenter ça aussi de part
Ben
et d'autre,
oui,
là.
ben
C'est
oui.
de façon très, très subtile. Je veux dire, fait que si on prenait le temps de le faire, ben, on aurait des enfants beaucoup moins hypothéqués, si on peut le dire ainsi. Mais je pense que c'est pour ça qu'on fait ce travail-là,
Oui,
en relation
exactement.
d'aide, pour accompagner ces gens-là qui ont besoin d'outils et de moyens. Ouais.
Ben oui, puis tu vois, moi, je l'ai vécu. J'ai vécu à l'âge de 14 ans. Mes parents se sont séparés pour la première fois. J'avais 12 ans. J'ai été pris là, dans des conflits de loyauté là, envers mon père, envers ma mère. Ça a été vraiment très, très difficile. C'est très souffrant pour un enfant, surtout quand tu es à l'âge de l'adolescence où est-ce que tu es un petit peu conscient de qu'est-ce qui se passe, de qu'est-ce qui se produit. Puis finalement, ils sont revenus ensemble. Après ça, ils se sont reséparés. Et là, il y a eu de l'aliénation parentale qui a été. Et là, là, ça a été difficile, mais. On s'en est bien sorti, puis maintenant, bien, je suis contente d'être consciente de tout ce qui s'est passé exactement parce que ça me permet, moi, de pouvoir diriger les familles, de pouvoir, les aider à mieux intervenir avec leurs enfants. Pourquoi justement que ça arrive? Hein, qu'est-ce que vous voulez, les parents, quand vous vous séparez? Ben, c'est de répondre aux besoins de votre enfant. Oui, de répondre à votre besoin à vous, hein, on est conscient, mais il y a un petit être là, entre vous deux.
Effectivement, puis j'aime pas dire qu'une préparation, ça se. Une séparation plutôt, ça se prépare, mais il y a une façon de s'investir dans la relation pour être à l'épreuve, je dirais, de toute éventualité. Puis ça commence par le rôle et fonction de chaque personne. Moi, en l'occurrence, ce sont les papas. Fait que, tu sais, c'est pas avoir un rôle absent, puis attendre qu'on nous dise quoi faire. C'est non, c'est de s'investir dans. En fait, qu'on soit en relation avec quelqu'un, il faut s'investir, mais d'autant plus lorsqu'il y a un enfant qui nous regarde puis attend que ça d'avoir un papa aimant, là, t'sais, et une maman aussi. Fait que faut pas attendre que les choses aillent mal pour qu'on dise j'aurais don Dieu, comme on dit par chez nous, là, mais il faut agir à titre préventif pour préparer le pire. On ne l'espère pas parce que la personne qui souhaite se séparer, mais aussitôt des fois qu'on voit des éléments qui peuvent être perturbateurs, il faut déjà commencer. Puis bien souvent, c'est ça que les gens me parlent, c'est que j'aurais donc dû faire quelque chose. On n'est jamais préparé, assez préparé, mais on peut quand même limiter l'impact que ça peut avoir sur l'enfant une fois qu'on vit la séparation. Ouais.
Puis, qu'est-ce que tu suggères, Bruno, là? Par exemple, là, moi, j'ai envie de me séparer. On est en situation de crise, ça ne fonctionne pas. Souvent, il y a des échanges qui sont en communication violente. Qu'est-ce que tu me suggères pour pouvoir passer au travers, là? Qu'est-ce que je fais en premier lieu?
En fait, tu l'as nommé tantôt, il faut surtout éviter d'avoir des discussions animées en
Oui.
présence des enfants. Il faut avoir assez de maturité pour dire, OK, quel moyen qu'on prend, mais surtout accepter le moyen que l'autre prend aussi. Parce que des fois, il y en a qui vont vouloir prendre un moyen, puis peu importe le moyen, il faut voir c'est quoi la finalité derrière ce moyen-là. Je donne par exemple un homme qui décide de se taire dans un conflit. Il ne faudrait pas alimenter pour dire là, tu ne m'entends pas. Il faut absolument qu'on règle ça. C'est de dire, OK, maintenant, quelle intention qui prend ce moyen-là? Et de part et d'autre aussi, là. C'est accepter le moyen que l'autre prend pour justement éviter que ça dégénère. Donc, il faut se faire confiance. Mais il faut toujours dire, bien, on le fait pas pour nous, mais pour les enfants. Ça se prépare. Je ne peux pas dire qu'il faut tout mettre à la lettre parce que bien souvent, on peut dire, OK, on va se faire confiance jusqu'à ce qu'il y ait une partie qui ne respecte pas l'entente à l'amiable. Fait que oui, je dirais, si on ressent l'obligation de le faire, de consulter, je ne sais pas, notaire ou avocat, pour être sûr qu'on va mettre les choses sur le papier, pour s'assurer que tout le monde a sa part du gâteau aussi. Mais il faut se faire confiance, puis il ne faut surtout pas hésiter de communiquer. Se prendre des moments, parce que des fois, la séparation est inévitable. Je veux dire, des fois, ben, ça ne se voit nulle part. Mais je le répète, éviter d'avoir des discussions que les enfants soient témoins de. Parce que peu importe ce qui arrive, c'est qu'un enfant va aimer ses deux parents égaux. T'sais, il aime son papa, il aime sa maman de la même façon, mais sauf que des fois, il va se sentir obligé de faire plaisir à un parce qu'il ne veut pas déplaire. Puis c'est là qu'on parle du conflit de loyauté aussi. T'sais, puis l'enfant, des fois, va mentir à un parent parce qu'il sait que c'est ce que le parent veut entendre. Donc, oui, la communication, on sait de le répéter, mais se trouver des moments pour tranquillement le préparer, puis à savoir comment est-ce qu'on va l'annoncer à l'enfant aussi, là.
Oui.
Oui, parce que ça, c'est la chose la plus difficile. C'est que l'enfant qui ne l'a pas vu venir, qui ne l'a pas choisi que ses parents se séparent, mais comment est-ce qu'on l'annonce? Comment est-ce qu'on prépare l'enfant? Puis souvent, l'enfant, éventuellement, puis ils ont une très belle capacité d'adaptation, les enfants. Des fois, on ne leur fait pas assez confiance. Ils développent des stratégies assez phénoménales. Mais l'enfant va dire, finalement, c'est le fun, je vais avoir plus de cadeaux de Noël. Bon, parfait. On va le voir comme ça.
Je vais
Mais
avoir
oui.
deux maisons.
Deux maisons, deux qui a plus de cadeaux de Noël. Mais en même temps, il faut surtout éviter que l'enfant vive un trop grand déséquilibre en impliquant la famille, le réseau qu'on a dans la séparation. Parce que tantôt, je parlais de grands-parents. Les grands-parents ne l'ont pas choisi, à moins que, des fois, dans des séparations, les grands-parents vont l'avoir alimenté. Des fois, on le sait, la famille n'est pas toujours aidante. Mais dans la mesure du possible, c'est qu'il ne faut pas créer de déséquilibre. C'est-à-dire, l'enfant n'a pas choisi de se séparer de ses parents, donc il faut apprendre à travailler en coparentalité. Garder, je dirais, le plus possible ces éléments, ce qu'on appelle dans le métier, là, ces facteurs de protection pour l'enfant qui vont pouvoir lui permettre de bien se développer. Ouais.
Parce qu'on peut ne pas réussir d'être en couple ensemble, mais on peut très bien réussir une séparation.
Il y a des parents séparés qui s'entendent encore mieux que quand ils
Oui.
étaient ensemble parce qu'ils ne ressentent plus l'obligation de pouvoir répondre aux besoins de l'autre, je veux dire, systématiquement. Fait que oui, une préparation, ça se sépare et ça se vit très bien aussi. Tantôt, je parlais justement de ne pas vivre un trop grand déséquilibre. Puis oui, ce serait faux de garder tout pareil une fois qu'on est séparé. Mais tant que l'enfant voit qu'on est capable de communiquer, d'interagir et de se respecter, il va comprendre qu'il y a peut-être plus d'amour entre ses parents, mais il y a du respect. Et pour le bien-être de l'enfant, c'est tout ce qu'il souhaite. Ouais,
Oui.
c'est ce que je conseille souvent. Ouais.
Ouais, puis écoute, Bruno, où est-ce que les parents, eh bien, les papas finalement peuvent te rejoindre? Nomme-moi tes réseaux sociaux, qu'est-ce que tu peux leur
Oh.
offrir?
Écoute, j'ai l'intention, puis. Chaque fois que les gens me disent ça, j'avais fait une autre entrevue, ils m'ont dit, où est-ce que tu veux amener ça? Comme on dit en anglais, sky's the limit. Je veux créer une communauté vraiment accessible. Je ne suis pas encore très habile avec les réseaux sociaux, mais j'ai Instagram, on peut aller sur Hors Pair. J'ai mon groupe du même nom, Hors Pair. J'ai Twitter. J'ignore comment ça fonctionne, mais je me dis, je vais pouvoir y accéder. Puis une fois, je vais être familier avec ça aussi. Donc, puis là, je suis en train, tu vois, après ça, j'ai une autre entreprise, je suis en train de monter un site Internet où est-ce que là, il va avoir beaucoup d'outils. Parce que je veux qu'Hors Pair soit, je dis bien, une référence pour les pairs. Ouais, tantôt, tu parlais, il va pouvoir avoir des conseils juridiques, avoir des capsules aussi simples. Je me souviens, il y a un papa qui avait écrit une fois, il venait d'apprendre qu'il y avait des jumeaux. Puis
OK.
il se dit, qu'est-ce que je fais là?
Le papa n'était pas au courant qu'il y avait des
Non,
jumeaux.
en fait, non, il vient d'apprendre. C'est comme si quelqu'un, la dame l'appelle 2 mois après, ou peu importe. Il ne s'était pas vu depuis longtemps. Puis il a dit en passant, allô, j'ai des enfants, puis je pense que c'est les tiens.
Oh là là.
Fait que là, il dit, OK, mais moi, je n'étais pas prêt à avoir des enfants là. Qu'est-ce que je fais? Fait que la question, c'est comment est-ce qu'on change une couche?
Mais
Aussi
oui.
simple que ça. Fait qu'on en a discuté, j'envoie une petite vidéo, une petite capsule, puis il dit, ah ben merci. Puis les gens disent, non, hey, fais-toi confiance, tu es capable. Donc oui, il va y avoir des capsules sur mon site Internet. Tu sais, des fois, les choses qu'on dit tellement banales, ben, ça peut faire du sens pour quelqu'un qui ne sait pas comment faire. Je dis toujours à quelqu'un, moi j'adore cuisiner. Fait que pour moi, cuisiner, c'est facile, mais pour quelqu'un qui ne l'a jamais fait, ça demande tous les efforts. Fait qu'il ne faut rien prendre pour acquis. Fait qu'Hors Pair, c'est tout ça. Puis, il y a une chose que moi qui me tient à cœur, puis je vais animer bientôt, c'est des ateliers de cuisine père-enfant.
Wow.
C'est des ateliers de cuisine parce que moi, je l'ai dit tantôt, moi, le sport et la cuisine, ce sont les deux médias que j'utilise pour communiquer avec mes enfants. Mes enfants adorent cuisiner avec leur père. Je cuisine mieux que leur mère, ça, je le dis, puis je suis fier de le dire. Mais ils savent, je les ai intéressés aux saveurs. Puis cette passion-là que j'ai pour la cuisine, je veux le partager avec les papas. Je veux qu'ils apprennent à cuisiner, à développer des moments, à avoir du plaisir avec les enfants. Puis lorsque j'ai animé cet atelier de cuisine-là, bien, chaque papa va partir avec un livre de recettes personnalisées. Va pouvoir développer. Donc, laisser un héritage. Fait qu'on part, c'est tout ça en même temps. C'est une opportunité de créer ou de recréer le lien au-delà de la séparation, parce qu'on ne peut pas séparer un père de son enfant. Fait que c'est ce que un père veut offrir à ses pères séparés qui souffrent, mais en même temps, c'est leur dire, vous n'êtes pas seul, faites-vous confiance, un père va vous accompagner. Comme je l'ai dit tantôt, c'est de faire jaillir, j'aime bien ce mot-là parce que c'est assez expressif, le père extraordinaire qui est en eux. Fait que sky's the limit. J'espère pouvoir rejoindre le plus de papas possible. Fait que voilà un peu mon intention d'ailleurs, tout ce que je pars comme mouvement, comme communauté qui va être là pour accompagner ces papas-là.
Ben, en bon québécois, là, tu as une maudite belle mission, Bruno, vraiment, là. Puis moi, je veux vraiment te faire découvrir aux papas qui ont le besoin de s'exprimer. J'ai envie de leur montrer à quel point ça peut être bon de s'exprimer puis de parler de ce qu'on vit, de nos émotions. Alors, écoute, je te dis un énorme merci d'avoir participé à mon podcast. Franchement, c'est une très belle découverte.
Ben, sincèrement, merci à toi de pouvoir de parler de ce qui me tient énormément à cœur. J'ai deux enfants, c'est mon troisième enfant que j'ai porté. Donc, oui, donc s'ils veulent me rejoindre, qu'ils peuvent se joindre au groupe, c'est juste sur Hors Pair, un groupe Facebook. Puis
Oui,
le plus qu'on est.
Horst-Pair, Pair, hein, c'est ça?
Exactement. Aussitôt que vous tapez Hors Pair sur Instagram, Twitter, Facebook, vous allez pouvoir, puis bientôt mon site Internet va offrir toute cette panoplie de services-là.
Ben, écoute, j'ai bien hâte de voir ça, puis pourquoi pas te réinviter un autre moment pour la continuité de tes projets?
Ben, ça va me faire un grand plaisir, n'importe quand, n'hésite pas.
Ben, parfait. Ben, merci à toi, Bruno. Puis je te souhaite vraiment de poursuivre tes rêves puis ta belle mission avec les
Ben,
papas.
merci beaucoup de m'avoir reçu, puis toi aussi, merci encore.
Merci,
Allez,
Bruno.
bye bye.
Bye-bye.
Un gros merci d'avoir été avec nous. Si t'en as l'envie, rejoins notre belle communauté Facebook avec le groupe Podcast Un Expresso, s'il vous plaît. Je remercie également Site Exact, qui est fièrement commanditaire de votre podcast familial. Avec Site Exact, réalisez tous vos projets web, sites, référencements, boutiques en ligne et plus encore. Pour plus d'informations, visitez siteexact.ca.